Vous écoutez Radio Notre-Dame.
Dans un instant.
Dans un instant.
Écoute dans la nuit.
Toute ma vie, j'ai tendu la main aux autres, en donnant un peu d'affection, de soutien aux personnes dans le besoin. Aujourd'hui, j'ai décidé de léguer mes biens au Secours catholique, pour continuer à aider les plus démunis, même après ma mort.
Écrivez au Secours catholique, service des legs, BP 455 75 007 Paris. Merci.
Le 1er juillet, c'est le premier vendredi du mois et la fête du Sacré-Cœur. Venez célébrer le cœur de Jésus et sa miséricorde à l'église Saint-Sulpice à Paris. Messe à 18h45 avec homélie du Père Louis Pelletier, puis adoration et procession du Saint-Sacrement. Venez louer et adorer le Seigneur ce vendredi 1er juillet, fête du Sacré-Cœur à l'église Saint-Sulpice. Renseignements 01 45 03 17 60.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Radio Notre-Dame vous invite à suivre en direct les grandes célébrations dominicales. À 16h, retrouvez l'office de vêpres depuis la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Et à 18h30, la messe à la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Le Seigneur soit
en union de prière avec des milliers de fidèles, les grandes célébrations du dimanche à 16h et 18h30. Sur Radio Notre-Dame.
Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
Vous êtes nombreux à nous demander notre mode de financement et vous êtes étonné d'apprendre que nous vivons de manière totalement autonome, bref, que nous ne percevons aucune aide financière extérieure. La seule aide, en fait, c'est vous. Pour financer les rédactions, payer les émetteurs, assurer le loyer, pour vivre tout simplement, eh bien, nous avons besoin de vous. Envoyez vos dons au 11 rue Rosenwald, 75 015 Paris. Merci.
Radio Notre-Dame. Cette émission est une rediffusion. Merci de ne pas téléphoner ce soir. Chantal Bally, bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Notre invité ce soir est le père Philippe Play, prêtre passionniste de la Congrégation de la Passion de Jésus-Christ. Il est recteur du sanctuaire marial de Notre-Dame-du-Croc dans l'Aude, où il mène une activité de prédication et de direction spirituelle. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Saint Paul de la Croix, directeur spirituel, et Prier 15 jours avec Saint Paul de la Croix, édition Nouvelle Cité, et puis aussi Saint Jean, le livre des sept secrets paru chez Anne Sigier. Il nous entraîne ce soir sur la voie de l'espérance à travers l'univers grandiose et tragique de l'Apocalypse à partir de son ouvrage qui vient de paraître aux éditions Salvator, Les grandes énigmes de l'Apocalypse, la clé des symboles. Père Philippe Play, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, quelques mots pour compléter cette brève présentation. Vous êtes donc passionniste. C'est une congrégation peu connue en France.
Peu représentée en France.
Peu représentée, voilà.
Mais qui est quand même représentée dans le monde entier, à travers tous les pays. Mais c'est une petite congrégation néanmoins d'environ de 2000 membres. globalement, pour les hommes. Il y a aussi des branches féminines, ou contemplatives, ou bien apostoliques. Saint-Paul de la Croix. Et
alors Saint-Paul de la Croix, justement, quelques mots.
Oui, c'est le père de notre congrégation. Oui. Il a reçu, lorsqu'il était jeune, à l'âge de 26 ans, eh bien cette invitation du Seigneur à fonder quelque chose de nouveau, qui mette à l'honneur eh bien la passion du Christ. D'où le nom de notre congrégation. Pour pouvoir fonder cette congrégation, il a été ermite avec son frère pendant une vingtaine d'années, et où il a vécu le rythme de vie qui allait devenir le nôtre. Et au bout d'une vingtaine d'années, le pape a reconnu la validité de sa règle, il l'a reconnue officiellement, et la congrégation est née donc en 1741. Et à la suite de ça, nous sommes nés. Paul de la Croix, c'est son charisme, et il est né d'en haut, il retourne en haut en quelque sorte, c'est le Seigneur qui lui a demandé. Alors, un double rythme, vous voyez, à la fois théorique, sous forme d'inspiration. Par exemple, quand il était très jeune, il passait dans un lieu solitaire, devant un beau sanctuaire, en solitude, et il se sentait appelé à être là, il pouvait pas. Mais il gardait ça dans son cœur, comme la Vierge Marie se disait, mais ça, un jour, je le vivrai. Et c'est exactement ce qu'il nous a légué, donc à son époque. Les passionnistes sont des religieux qui vivent au désert, c'est-à-dire dans des lieux non habités, loin de même des villages, en pleine solitude.
Des ermites.
Pas tout à fait.
La vie cénobitique.
Un peu comme les carmes qui étaient ermites eux-mêmes d'ailleurs à l'origine, mais vous voyez donc des contemplatifs, mais qui accorde vraiment une très grande importance donc à la solitude, au silence, des quasi-ermites, parce que les valeurs de l'érémitisme, même si le pape ne les a pas consacrées comme élément fondateur de notre règle, eh bien ça appartient quand même nettement au patrimoine spirituel que Paul de la Croix nous a légué. On prie au pied de la croix, tout est ordonné à cette prière au pied de la croix, tous les jours pour que ce mystère entre à la fois dans notre esprit et dans notre cœur, les deux grands pôles de l'âme, l'intelligence et puis l'amour, et notre cœur. Donc la méditation, on nourrit son intelligence, et puis le cœur, c'est l'oraison, et l'oraison au pied de la croix. Et le second élément du charisme, donc une fois qu'on est bien nourri, bien pénétré, bien verticalisé, ça verticalise, ça fait vivre au milieu des anges en quelque sorte, eh bien, les bons mais aussi les mauvais, disons-le. Le passionniste, c'est quelqu'un qui va annoncer au monde les merveilles de la passion. Alors ça, on pourrait en parler longuement de ces merveilles de la passion. Je voudrais juste dire un mot, parce que c'est fondamental. On se fait une très fausse idée de la passion du Christ. On pense à un élément trop doloriste, on ne regarde que le caractère de destruction du Christ qui a eu lieu il y a 2000 ans. Et pour ça, on se dit, ça ne concerne que Jésus pour la rédemption, et puis nous, on n'a plus besoin. En réalité, la passion, c'est bien autre chose, c'est bien plus riche. Il y a un versant lumineux, pas seulement un versant ténébreux. Dans la Bible, au niveau du symbole, vous voyez, cherchez la passion dans l'Ancien Testament, c'est le mont des Oliviers. Et le mont des Oliviers, là je vous détaille pas les endroits où ça se trouve, mais il a deux versants. Bien sûr, il y a Gethsémani, le versant obscur, où on prie pour le monde qui n'aime pas Dieu, pour l'amour qui n'est pas aimé. Et pas seulement en soi-même, mais à l'extérieur de soi. Et puis, il y a ce versant de lumière, là j'en ai parlé dans mon commentaire du livre de Jean, le livre des sept secrets.
Oui.
C'est Béthanie. C'est là où on devient l'ami du Seigneur. Béthanie, c'est le lieu où le Seigneur aimait à se rendre, à loger chez son ami lorsqu'il venait à Jérusalem. Et il y venait pour toutes les grandes fêtes religieuses. Et bien là, et c'est l'épisode de l'onction de Béthanie, notamment, qui nous livre le secret de Béthanie. Donc ça, c'est le mont des Oliviers. Vous voyez, il y a ces deux versants.
En deçà et l'au-delà de la croix, on peut dire.
Le versant lumineux et le versant ténébreux. Dans la croix, c'est le mystère de l'affrontement du bien et du mal qui nous est montré sous forme d'icône. Eh bien, on le vit. Et on ne vit pas seulement, c'est ce que je voulais dire et insister vraiment à temps et à contre-temps, c'est pas seulement la douleur, c'est pas seulement l'obscurité. C'est la douceur et l'intimité avec le Seigneur. Voilà, c'est... Donc, quand on devient passionniste, c'est pas, on prend pas les mots du monde entier sur ses épaules, c'est pas quelque chose de triste, c'est une chose merveilleuse.
Il y a l'intimité avec le
Christ. Je tenais à le signaler.
Voilà. Et Notre-Dame du Croix, un mot de Notre-Dame du Croix, peut-être, puisque vous êtes recteur de ce sanctuaire marial.
Oh, oui.
Oui.
Alors, Notre-Dame du Croc, c'est un petit sanctuaire en pleine solitude, dans un lieu qui est d'une grande beauté. C'est à 20 kilomètres au nord de Carcassonne. On est dans le sud. La végétation est méditerranéenne. Elle est riante. Et en même temps, c'est très sauvage. Il y a quelque chose. On est vraiment dans le désert au sens spirituel du terme. Hein. La main de l'homme est absente en dehors de son hommage religieux, le sanctuaire, la belle chapelle qui s'y trouve. C'est le croc ou crosse, comme disent les gens dans le sud. Eh bien, c'est étymologiquement, c'est pas la croix, ça veut dire le creux, parce que c'est tout au bout d'un petit val, un charmant petit val. Et il y a beaucoup de cavernes aussi. Il y a des petites falaises. On est contre un plateau, des falaises de. Où on peut faire de l'escalade, par exemple, mais du calcaire. Et bien, c'est là, tout au bout, là, que se trouve une ravissante chapelle.
Comment elle s'est implantée là?
Enfin, exactement.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Au XIIe siècle. Eh bien, c'était un lieu où les bergers et les bergères emmenaient leurs troupeaux. Et une bergère, eh bien, avait un nouveau-né qui était malade, qui se mourait. Elle a prié la Vierge Marie et elle a accompagné son geste, comme tous les gens simples, comme tous les gens qui ont besoin aussi de quelque chose de tangible, eh bien d'une ablution d'eau. Il y a une source qui coule encore aujourd'hui, et avec sa prière, et à partir de ce moment-là, l'enfant était guéri. Et donc, elle a crié sa joie à tous, et bien les gens ont fondé un sanctuaire.
En remerciement,
mais aussi par intérêt.
Oui.
En se disant que le Seigneur, là, ayant exaucé
bénisse
déjà...
Bénisse encore.
Exactement.
Oui, oui.
Bénédiction sur bénédiction.
Alors venons-en à cette grande vision universelle cosmique que Saint Jean nous révèle et nous transmet à travers l'Apocalypse. Quel est le sens profond de cette grande fresque, on peut dire, prophétique? Et comment est-elle structurée? Et présentez-nous un peu l'intrigue générale de cette épopée, on peut dire.
Dans l'intrigue générale, pour Jean, il veut nous présenter ces deux grands thèmes qui constituent vraiment le ressort de l'Apocalypse, c'est le combat spirituel d'une part et l'espérance qui en est la leçon, qui permet de tenir. Et la colonne vertébrale est constituée en fait de quatre septénaires. Les septénaires, c'est, comme le nom l'indique, c'est des groupes, c'est une structure, on va dire une réalité septuple en sept éléments. Si on en enlève un, la réalité n'est plus globale, elle est plus bien, elle est déséquilibrée quelque part. Et les deux premiers septénaires nous montrent l'état du monde. Vous voyez, c'est pas encore l'action proprement dite, c'est un diagnostic sur le monde. Alors, c'est d'un point de vue spirituel.
Oui, il faut bien se placer sur le plan spirituel.
Saint Jean, lui, ça l'intéresse pas beaucoup de nous décrire des réalités purement sociologiques. Alors, on peut faire des rapprochements, mais c'est pas là l'essentiel pour lui. Un diagnostic. L'Église d'un côté, les lettres aux sept églises. Mm-hmm. C'est d'abord les croyants. Et les croyants, on s'aperçoit qu'ils sont mélangés. Il y a à la fois des croyants qui sont capables d'aller jusqu'au martyr. Il y en a d'autres qui sont dans un état de compromis, qui accueillent notamment des doctrines étrangères, et donc les mœurs, ceux qui en découlent aussi. Et puis, malheureusement, il y a encore des croyants qui sont beaucoup plus tièdes et qui sont à la limite de la mort spirituelle, de la perte de la foi. Donc on a une Église qui est à la fois lumineuse et ténébreuse. Voilà le diagnostic au moment des événements apocalyptiques. Mais Jean ne se borne pas à nous parler des croyants. Il va plus loin et il nous parle aussi des incroyants. Et c'est l'autre septénaire, le second septénaire, l'ouverture du livre aux sept sceaux. Donc avec ces deux septénaires, Jean nous montre l'état du monde. Le livre aux sept sceaux, c'est comme un médecin qui palpe le corps d'un malade, y a des endroits où ça fait mal. Et les endroits où ça fait mal, ça nous est présenté sous la forme symbolique du fléau, d'ailleurs pas systématiquement, tous les sceaux ne sont pas des fléaux, mais le fléau ici nous montre quelque chose, un attachement de l'homme, vous voyez, qui doit être purifié. Alors c'est quoi ces attachements? Parce que ça, tout au long de l'Apocalypse, les fléaux, on les retrouvera, c'est les fausses espérances, ces idoles,
oui.
Dans lesquelles les hommes mettent leur espérance, pour trouver quoi? Le bonheur. Pour trouver ce qu'ils pensent être le chemin du bonheur et le moyen du bonheur. Il y en a beaucoup, on les connaît tous, parce que depuis la nuit des temps, l'homme est toujours l'homme. Le pouvoir, l'argent, La séduction, le plaisir, et tout ce qu'on peut imaginer, quoi, tout ce qui peut conduire à une plénitude. Dieu nous dit, mais Dieu met en crise, vous voyez, ses fausses espérances, oui. Ses idoles.
Pour rattraper l'homme, justement, de son erreur.
Pour qu'il prenne conscience, eh bien, que ça ne le conduira pas à l'éternité. Ça ne peut pas lui donner un bonheur qui soit source de vie éternelle. Et ça lui montre la fragilité de ses fausses espérances. Et là, on n'est qu'au niveau du diagnostic. Au fur et à mesure de l'action apocalyptique, Dieu va accélérer et intensifier cette mise en crise.
Justement pour provoquer l'homme à une réaction et conversion.
C'est ce qu'il espère, évidemment. Mmh. Mais il y a aussi, alors c'est les deux septenaires qui suivent, qui sont la suite. Alors, on a le septenaire des trompettes d'abord, il y a ensuite celui des coupes. Le septenaire des trompettes inaugure proprement, alors vous voyez, après la situation du monde qui nous a été présentée dans les deux premiers septenaires, eh bien, bah, l'action va commencer. Les trompettes, c'est le jugement de Dieu sur le monde.
Il y a une grande dramaturgie en même temps.
C'est extraordinaire, on pourrait faire un film merveilleux avec ça.
Oui, c'est sûr.
Surtout avec les trucages qu'on a maintenant, vous vous rendez compte ce qu'on arrive à faire au niveau image virtuelle, etc.
C'est la réalité.
Ouais, mais une réalité invisible. Oui. On est obligé de faire la conversion. Il faut passer du symbole. Et c'est très pédagogique d'ailleurs l'écrit de Jean. Il nous permet de passer par le symbole, l'écrit symbolique, de passer au monde réel. Le monde réel est à considérer un peu comme un symbole à décrypter de la même manière. Et alors donc, il y a, après l'analyse du monde, au plan spirituel, il y a le jugement de Dieu sur cette situation. Et ce jugement, c'est les sept trompettes. Ensuite vient le dernier septenaire, lui vient conclure l'action, c'est-à-dire, alors là, on a l'exécution de la sentence, l'exécution du jugement. On a, l'énonciation de la sentence, c'est le jugement divin. Et puis ensuite, il y a sa mise en pratique. Et entre les deux, vous voyez, entre le jugement de Dieu et puis l'exécution de la sentence, en quelque sorte, donc de ce jugement, il y a un grand développement que Saint Jean nous propose pour bien nous faire comprendre en fait de quoi il veut nous parler. Et ce grand développement, je l'ai appelé le cycle des grandes figures.
Voilà, les grandes figures, sept grandes figures. Oui, c'est ça. Hein? Alors, quels sont ces éléments constitutifs, on peut dire, de ces sept grandes figures, et puis qu'est-ce qu'elles représentent, et aussi dans leur agencement aussi, telles qu'elles sont agencées, ce n'est pas par hasard.
On pourra... Il y a sept grandes figures, je les cite d'abord, il y a les deux témoins, il y a la femme revêtue de soleil, chapitre 12, il y a le dragon rouge-feu qui est devant elle et qui veut absorber l'enfant, dévorer l'enfant qu'elle va mettre au monde. Vous avez ensuite ce dragon rejeté sur la terre qui suscite la bête de la mer. Vous avez ensuite la bête de la terre qui est suscitée par le dragon. Au moment où tout le monde entier semble être tombé sous le pouvoir du dragon, sous son contrôle, sa séduction, paraît sur le mont Sion l'agneau. Et ça précède immédiatement la grande bataille d'Armageddon. Et puis, il y a la septième grande figure, c'est Babylone. Alors, on les cite pour l'instant, mais on pourrait...
On va développer,
parce que c'est très important, c'est le noyau de l'action. Mm-hmm. C'est le moyen que Jean a trouvé pour nous permettre de contempler et de recevoir son message, de le développer. Alors après, vous voyez, on a ces quatre septenaires, là, ça y est. Dieu exécute sa sentence, finalement, il reprend les choses en main. Et c'est la grande bataille entre les forces du bien et les forces du mal, entre le dragon et l'agneau. C'est Armageddon, tout le monde en connaît ce nom, Armageddon, c'est mythique. Mmh. Et c'est le grand moment où l'agneau va vaincre ses adversaires. Il est accompagné des armées célestes.
Ils sont 144 000 élus.
Entre autres, oui. Mmh. Et puis d'autres, une cavalerie. Vous voyez, les 144 000, on les a vus avant, mais ils en font partie.
Oui.
C'est sa grande troupe. Mais également la troupe céleste. Vous voyez, il y a quelque chose d'ultime dans cette bataille.
L'armée céleste.
Toute l'armée céleste. Mmh. Mais ce qui est très significatif, c'est que c'est l'agneau qui fait tout. Il est le seul à combattre. comme ça. Si tout le monde l'accompagnait, assistait à sa victoire. Et puis, mais c'est lui. Alors, comment le fait-il? C'est avec l'épée qui sort de sa bouche. C'est un symbole de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il confond le mensonge. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, aucun homme ne peut dire « Ah, je ne savais pas.
Ah, l'épée
je
a
ne
serré,
comprenais
oui.
pas. » C'est-à-dire que là, à Armageddon, les enjeux du combat de la foi, que nous, croyants, nous connaissons, mais les incroyants, longtemps se dissimulent ou se cachent derrière leur ignorance pour s'occuper d'autre chose, de la vie matérielle, d'eux-mêmes. Eh bien là, cette bataille-là, c'est la grande victoire parce que à ce moment-là, tout le monde devient lucide en quelque sorte. Vous voyez, c'est un grand miracle, l'Armageddon, c'est quelque chose de colossal. Et ça ouvre une ère, l'ère du millénium, comme on l'appelle, c'est-à-dire 1000 ans, où le monde reçoit la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel, et elle vient irradier la lumière du Christ, c'est-à-dire l'Évangile, les valeurs de l'Évangile, pendant 1000 ans. 1000, c'est pas considéré d'un point de vue chronologique. 1000, c'est un chiffre qualitatif, c'est la bénédiction. Ça veut dire c'est la bénédiction de Dieu, c'est un symbole de la bénédiction. Dieu qui bénit les hommes pour 1000 générations, dit-on dans l'Ancien Testament. Et alors seulement, à l'issue des 1000 ans, il y a encore une bataille finale, la dernière, le dragon est relâché, parce qu'il avait été emprisonné, lié, et il est relâché, il séduit à nouveau toutes les nations, on n'est pas au ciel encore, hein. Il y a eu une belle période de paix, et puis ensuite, c'est le jugement final, et on a la vision de la vie éternelle au chapitre 22.
Un grand merci, Père Philippe Play, pour cette... ce panorama que vous nous avez donné de l'Apocalypse. On va y revenir bien sûr plus en détail dans quelques instants. On écoute tout de suite, et bien c'est Enya qui chante Evening Falls.
Radio Notre-Dame.
For a moment I stray.
Donc ce soir, nous sommes en compagnie du père Philippe Play, qui est passionniste et qui nous présente les grandes énigmes de l'Apocalypse, la clé des symboles. C'est le livre qui est paru aux éditions Salvator, et ce soir, il nous dévoile quelques-uns de ces secrets qui c'est vrai que c'est énigmatique, l'Apocalypse.
Oh, combien.
Et comme vous nous disiez, c'est vraiment la lecture, elle est spirituelle. Si on ne voit pas ça sous cet angle-là, on ne peut pas comprendre.
Non, il y a beaucoup de lectures historiques, mais elles sont d'ailleurs intéressantes du point de vue culturel. Mais par exemple, moi, la lecture exégétique classique, c'est des commentateurs de la Bible, on appelle ça l'exégèse historico-critique, c'est-à-dire regarder et tout décrypter, tous ces symboles, en fonction de la vie de Saint Jean au 1er siècle de notre ère. Bon, il y avait des persécutions à l'époque, donc c'était Rome qui persécutait, donc on va identifier tous les symboles négatifs avec Rome, Néron, voyez l'Empire romain qui se diffusait dans le monde à cette époque-là. Mais c'est trop limité. Ça ne nous livre pas le mystère et ça ne me dit pas pourquoi est-ce que ça me touche tant. Quand j'étais jeune, moi, l'Apocalypse, bon, je ne le comprenais pas. J'arrivais pas à percer à jour tous ces mystères. Mais en même temps, lorsque je l'avais lu, j'avais un enthousiasme, une force, une ferveur. Une espérance renouvelée qui était incroyable. Et c'est un texte magique de ce côté-là, un texte qui est vraiment porteur de grâce. Donc, il est porteur d'un mystère.
Bien sûr.
Il est porteur de la grâce. Mmh. Et donc, la lecture historique ne suffit pas. Il y a une autre manière d'interpréter historiquement le texte, c'est de le projeter dans le futur, soit dans le présent qu'on vit, soit dans le futur, en disant, il y a des situations là autour de nous, là dans notre monde, qui ressemblent à l'Apocalypse, telles que Jean nous les donne. Mais ça, il faut le faire dans un deuxième temps, il ne faut pas le faire dans un premier temps. Avant de faire l'appropriation, ce qu'on appelle l'appropriation ou l'actualisation, c'est-à-dire s'approprier le texte, il faut d'abord recevoir le texte. Et pour recevoir le texte, il faut laisser de côté l'histoire pour l'instant, qu'elle soit passée ou présente ou future.
Oui, après c'est dans l'interprétation.
Une fois qu'on a bien reçu le message, on a les lumières nécessaires, je trouve, pour essayer de regarder autour de nous, quelles sont les situations apocalyptiques. Il y en a toujours eu dans le monde des situations apocalyptiques. Maintenant, si on me demande, mais l'Apocalypse, la fin du monde, etc., je dirais que Saint Jean nous livre une clé herméneutique, une clé de compréhension, d'identification. Lui nous dit, le monde entier sera pris dans ce mouvement. C'est-à-dire que au long de l'histoire, les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui restent dans le non-choix. Ça, c'est un thème très important, le non-choix. Et l'Apocalypse, au contraire, nous montre une situation ultime où les hommes ne peuvent plus rester dans le non-choix. Ils doivent choisir de suivre ou bien l'agneau ou bien le dragon. Le dragon lui-même est le premier intéressé à faire sortir les hommes de leur neutralité. Cette neutralité, c'est quoi? On s'en occupera plus tard lorsqu'on sera concerné par la mort et la vie éternelle. Pour l'instant, on vit sur la terre. Les hommes cherchent toujours une neutralité confortable entre Dieu et diable pour pas avoir de problèmes moraux trop compliqués à gérer. Et puis avoir une vie bête et s'enfoncer.
Le compromis, quoi.
Le compromis pur. Ouais. Mais en même temps, c'est plus que le compromis. C'est un point zéro, vous voyez, qui n'est ni Dieu ni diable.
Il n'y a pas d'engagement, pas
aucun.
De choix.
Voilà, un non-choix total. Mm-hmm. Et ça, l'Apocalypse, Saint Jean nous dit, au moment de la fin des temps, les hommes ne pourront plus demeurer dans cette position qui leur paraît confortable. Ce ne sera plus possible. Parce que aussi bien le dragon que l'agneau, bien sûr, pour notre salut, ne permettront plus aux hommes de le faire. Parce que c'est l'ultime, l'Apocalypse. Mmh. Alors, au long de l'histoire, il y a des situations apocalyptiques. Mais le non-choix demeure possible, toujours. Regardez les chrétiens aujourd'hui, dans les pays musulmans, ou bien en Inde, sont persécutés ouvertement. Et d'une manière, jusqu'à perdre la vie, en tout cas leur bien, énormément de choses. Eux vivent vraiment un aspect de l'Apocalypse très puissant.
Et là, il y a un choix vraiment à faire.
Ils ne peuvent pas faire autrement.
Ils ne peuvent pas faire autrement, ils sont acculés. Oui,
vous voyez, en tant que chrétien...
On renie ce qu'on est. Oui.
Ou bien on va suivre nous intimide, j'ose pas dire le dragon, ou bien on va suivre l'agneau, mm-hmm. mais au prix de grands sacrifices.
Oui. Et du martyr.
Et alors, eux se trouvent vraiment dans une situation apocalyptique. Mais le monde entier n'est pas encore dans cette situation.
Dans cette crise totale.
Mmh. Et la clé herméneutique de Jean, c'est le monde entier le sera. Donc, tant que le monde entier ne l'est pas encore, on peut se dire, c'est pas l'ultime, ça, on n'est pas encore dans les derniers temps.
Les crises, le monde est en convulsion quand même.
On peut parler d'une accélération quand même, c'est vrai, parce que le monde n'est pas statique. Certains philosophes essayaient de décrypter la progression justement de l'histoire, Hegel par exemple, mais de la mesurer en disant c'est pas statique, il y a une progression, un terme vers lequel l'histoire converge et où elle s'achèvera. Le religieux dit la même chose, évidemment, notre révélation dit la même chose. Mais alors, c'est toujours délicat d'essayer de mesurer. Parce que parfois, vous voyez, c'est le symbole biblique qui correspond à ça, c'est Babylone. Alors Babylone, on le trouve dès les premiers chapitres de la Genèse, sous le nom de Babel.
Oui.
Babel, c'est le terme hébreu, Babylone, c'est le terme grec, mais c'est la même réalité. Il s'agit d'une ville, la première ville, qui a été construite par les hommes, avec une tour au milieu, l'épisode est célèbre.
Babel, oui.
Qui devait atteindre jusqu'aux cieux et qui devait donc conquérir le ciel, c'est-à-dire les hommes s'affranchissaient de Dieu, sans Dieu, allaient conquérir l'éternité en tant qu'humanité, globalement. Et ce grand projet de mondialisation, la première forme de la mondialisation. Et à toutes les époques, les empires nous ont montré le même spectacle de tentative de réunir vraiment les hommes, les créatures douées de raison, vous voyez, sous une même bannière, dans une même idéologie, dans une même direction. Alors, pourquoi faire? Ça, c'est vraiment la question qu'on peut se poser, parce qu'il n'y a jamais de pourquoi. C'est toute la fascination des grands fondateurs d'empire ou des grands idéologues, c'est la construction, finalement, qui les fascine.
Oui.
Mais le terme, ils n'ont rien à proposer pour le terme. Dieu seul peut réaliser cet état paradisiaque qu'on projette, qu'on suppose, qu'on espère. À l'issue de cette construction qui s'achève toujours, qui n'a jamais de fin.
Et qui donne sens aussi à cette construction. Qui donne sens,
c'est comme c'est l'utopie. On en reparlera avec la bête de la mer, entre autres. Mais on peut le dire tout de suite, il y a l'utopie, c'est-à-dire l'idéologie, l'aspect séducteur de l'idéologie. On va construire un monde à notre image, on va faire quelque chose de grand, même si c'est... Alors, individuellement, on participe à quelque chose qui nous dépasse, donc une transcendance, mais voyez, immanente, c'est-à-dire horizontale, pas tournée vers Dieu. Une transcendance, l'individu est transcendé par l'espèce, par le genre humain, quelque chose de plus grand que lui. Mais chaque individu, en entendant ça, cet appel à construire un monde où vraiment l'homme sera un Dieu, ça fascine les hommes, ça donne un programme. C'est vrai que la vie, sinon, les hommes s'ennuient.
C'est limité. L'homme est appelé à un dépassement, il le perçoit, mais problème...
Mais Babylone, je voulais juste achever là-dessus par rapport à votre question. Donc, à toutes les époques, c'est repris, mais le chantier est abandonné. Comme dans le livre de la Genèse, Dieu divise les langues, donc les divise entre eux. Donc ils cessent d'être unifiés derrière ce projet. Et à toutes les époques, vous avez ces tentatives qui naissent et sont abandonnées. Et Saint Jean, lui, nous dit, à la fin des temps, là, cette fois, ce sera l'ensemble des hommes, l'ensemble des hommes qui composent notre planète, seront embarqués, entraînés derrière cette idée de la construction, sauf les chrétiens qui, eux, sont persécutés. Parce qu'ils n'entrent pas dans le projet.
Cette idée de mondialisation, c'est une totalisation
C'est très présent dans le texte de Saint Jean. La mondialisation, c'est quelque chose vraiment qui habite toutes les pages. C'est Babylone. C'est l'essence même de sa caractéristique, celle de Babylone. Mais Saint Jean nous dit que là encore, cet ultime effort du dragon pour construire la cité, le paradis terrestre, sans Dieu, échouera elle aussi.
Alors, au cœur de l'Apocalypse, on trouve au chapitre 12 cette femme qui est enveloppée du soleil, enveloppée de soleil,
la lune sous les pieds
et couronnée de 12 étoiles. Oui, c'est magnifique. Et elle est poursuivie par ce dragon, et il y a vraiment entre les deux vraiment un combat qui va se livrer, le dragon voulant dévorer la femme qui va enfanter, et elle est conduite au désert. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout cela ?
Alors effectivement, là on voit bien le et comment est-ce qu'il faut essayer de s'approprier le langage de Jean, ces symboles. C'est d'abord il faut, alors dans l'Apocalypse, il faut toujours bien situer le lieu où se trouve l'action. Le grand signe, c'est un signe grandiose, un grand signe, nous dit saint Jean, je vis un grand signe dans le ciel, une femme revêtue du soleil. Et ça se passe dans le ciel. Vous voyez, donc vous avez déjà une première division, le ciel et la terre. Ensuite, la femme ira sur la terre. Le dragon, lui aussi, est au ciel, il sera précipité sur la terre. Donc le ciel, c'est le lieu qu'habite Dieu, rien de moins. Et c'est dans ce lieu-là eh bien, que se trouve la femme. On est en dehors de la création, en dehors du lieu matériel, de la matière, en dehors du temps. On n'est plus dans l'histoire, là.
Oui, c'est plus
donc, vous voyez, c'est le propre des visions de saint Jean, qui passe, lui, il est dans un contexte historique donné, le sien, en tant que voyant, sur l'île de Patmos. Lui, c'est un dimanche, il voit tout ça. Et puis, il nous parle d'événements futurs, mais toujours au niveau de la terre, oui, c'est l'histoire. Mais entre-temps, il a été attiré au ciel, hors du temps, complètement hors de l'histoire. Donc, on peut comprendre, il faut comprendre maintenant la femme revêtue de soleil et le dragon, deux signes sont liés, eh bien, de cette façon-là. On pourrait dire, et on se tromperait, c'est l'incarnation du Verbe. La femme, elle est enceinte, et elle enfante un fils, c'est le Christ,
oui, oui.
Qui doit mener toutes les nations avec une verge de fer. Verge de fer, c'est pas la brutalité. Hein. Le fer, c'est la dureté, ça veut dire un pouvoir que personne ne pourra détruire. Un sceptre, une royauté que personne ne pourra briser. C'est le fer est le symbole de la dureté. Et puis cet enfant-là, ben, il est attiré auprès de Dieu pour échapper au dragon. Or, c'est pas ça l'incarnation historique il y a 2000 ans. Ben, évidemment, c'est cette image nous renvoie à cette incarnation historique, mais ne la décrit pas. On est au ciel, on n'est pas sur la terre. Et il faut être très attentif à ça. C'est-à-dire que là, ce que saint Jean nous montre, c'est un projet. Saint Jean, vous voyez, il est tiré lui-même d'ailleurs,
vers le haut, oui.
en dehors du temps. Et là, il remonte aux origines, au-delà même de la création du monde. Et on sait par la tradition que les anges ont été créés avant les hommes. Et que les anges, ce sont une partie des anges, s'est rebellé contre Dieu, c'est Lucifer. Lucifer, le porteur de la lumière, c'est littéralement, c'est son nom indique ça. Et pas n'importe quelle lumière, hein, c'est pas nos petits spots. C'est la lumière de la vérité et de l'amour. Ce qui éclaire tout homme au sens de son âme. Au sens spirituel du terme, mais pas les yeux de son corps, eh bien, il portait cette lumière-là, Lucifer. C'était son titre de gloire, la plus belle créature. Eh bien, elle s'est révoltée. Bah, on sait que c'est par orgueil, mais on peut mettre un nom, mais on sait pas pourquoi. Or, saint Jean, lui, nous fait une révélation, il la reçoit, il nous la communique. Eh bien, je vais vous dire, en quelque sorte, pourquoi, nous dit saint Jean, eh bien, Lucifer et ses anges se sont rebellés contre Dieu. Et parce qu'il faut à l'orgueil un prétexte. Bon, bah, l'orgueil, c'est une sorte de virus qui nous ronge, qui se développe intérieurement, mais les symptômes apparaissent pas tout de suite, vous voyez. Il faut, pour que ça explose, pour que ça sorte, il y a toujours un prétexte. Alors, Dieu, eh bien, a convoqué ses anges et il leur a dit, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Et la bonne nouvelle que je vais vous annoncer, c'est je vais engendrer une autre créature spirituelle qui ne sera pas un ange, ce sera une créature qui sera l'homme. Et on peut, si vous voulez, en reparler à l'heure.
Voilà, dans quelques instants, un peu de suspense. Hein,
exactement.
Dans l'histoire. Merci, Père Philippe Play. Voilà, donc on va écouter tout de suite. C'est la symphonie numéro 2, un extrait bien sûr de Gustav Mahler par c'est l'orchestre symphonique de la radio de Francfort.
Radio Notre-Dame.
Thank you.
Donc c'était un extrait de la symphonie numéro 2 de Gustave Mahler. Nous sommes en compagnie du père Philippe Play qui nous dévoile les grandes énigmes de l'Apocalypse comme il le fait dans son livre qui porte le même titre et en sous-titre La clé des symboles. C'est paru chez Salvatore. Alors nous étions là au cœur hein, avec le chapitre 12, cette femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds, et puis cette couronnée de 12 étoiles. Et c'est la vision que Jean en a. Et Jean est transporté là, vraiment ça ne se passe pas sur Terre, ça, c'est vraiment dans le projet de Dieu.
Exactement, au ciel. Le ciel, c'est le lieu de tous les projets de Dieu, on pourrait dire, pas seulement des résultats de ces projets, les rachetés, mais aussi on est en dehors du temps. Mmh. Donc vraiment, il nous attire en dehors du temps au moment, avant même la création du monde.
Voilà. Alors, avant même la création du monde, et Jean va avoir cette vision pour comprendre à partir de là le drame de l'humanité, finalement.
Bah, tout à fait. Et le drame, et puis la beauté.
Et la beauté, bien sûr.
Les deux à la fois.
Alors, avec cette révolte de Lucifer, qui n'accepte pas, finalement, que Dieu crée un être humain.
Oui. L'être humain, c'est une créature spirituelle, mais une créature spirituelle qui n'est pas une âme au milieu d'un corps. C'est vraiment une âme et un corps qui ne forment qu'une seule réalité. C'est-à-dire que le pur esprit de l'ange, lui, je dirais les choses comme ça, au premier instant de sa création, il est dans la maturité totale de son discernement, de sa volonté. Tandis que l'homme, nous autres, on n'est pas du tout dans cet état-là. On est dans le devenir, on est dans la croissance, dans le temps. On a une vie entière pour découvrir, choisir et suivre Dieu ou bien faire autre chose, le fuir, le refuser. Mais on a une vie pour ça. Et le Seigneur, là, vraiment nous montre que la miséricorde intervient à chaque instant et c'est pourquoi aussi... C'est jamais trop grave les choses qu'on peut faire à tel ou tel âge, à tel moment de notre vie, c'est toujours récupérable.
Oui, on peut se reprendre.
Ouais, oui. Exactement. Mmh. Dieu peut exercer toute sa miséricorde. Et d'ailleurs, il adore ça. Je le dis en confidence, mais pour tous ceux qui nous écoutent, il aime beaucoup à exercer sa miséricorde.
Alors on peut en user, en abuser alors. En lui demandant sa miséricorde à chaque instant.
Voilà, mais on se fait prendre au piège, fort heureusement. Donc, quand on abuse trop de la miséricorde, on ne peut plus s'en passer. Et on ne peut plus l'offenser non plus. Alors donc,
c'est à double tranchant. Voilà, on est vraiment
extraordinaire pour ça.
Sous son pouvoir d'amour.
Ouais. Et puis, il faut dire que l'ange, lui, il est tellement mûr et son choix est irréversible une fois qu'il est formulé.
C'est dramatique quand même.
Quand on pense aux anges un peu, mais en même temps, ils ont les moyens.
Ils ont les moyens, oui.
Tandis que nous, on les a pas. Vous songez qu'il nous faut une vie entière pour entrer dans cette maturité, pour enfin pouvoir dire oui à Dieu.
C'est pour ça que le temps nous est donné.
Exactement. On n'a pas besoin de plusieurs vies, en revanche, mais on n'a pas de karma, heureusement, à supporter. Mais le Seigneur a même inventé le purgatoire pour ceux qui étaient restés durant leur vie dans le non-choix, mais qui au dernier moment, quand même, devant en sa présence, le choisissent, parce qu'ils n'ont jamais renié non plus.
Oui, il n'y a pas eu de choix, quoi.
Il n'y a pas eu de choix. Mm-hmm. Donc le Seigneur qui est bon a inventé le purgatoire. Le purgatoire, c'est-à-dire... Et apprendre à être purifié, à devenir, à s'embraser, être complètement illuminé par Dieu, ce qu'on devrait faire sur cette terre.
C'est tout notre programme, finalement, sur Terre, c'est ça?
On n'en a pas d'autre. Vraiment, découvrir Dieu et le choisir. Et les anges, eux, ils n'ont pas... c'est une évidence pour eux, au départ. Leur créateur, ils le reconnaissent tout de suite. Ils sont capables de l'accepter ou de le refuser. Et là, ça se cristallise autour de l'incarnation, justement, ce discernement. C'est l'occasion pour les anges d'accepter la souveraineté de Dieu ou pas. À la limite, avant, il n'y avait pas de combat imaginable. Dieu était le souverain. Les anges ne se rebellent pas contre Dieu. Ils se rebellent, Lucifer et ses anges, le dragon qui balait le tiers des étoiles du ciel, c'est-à-dire le tiers des anges, se révoltent contre le fait qu'une créature aussi, par rapport à eux, s'entend, aussi incapable de comprendre, aussi incapable de percer tout de suite les grandes finalités. Regardez les philosophes, c'est vraiment à tâtons, et pourtant ce sont de grands esprits, plein de haute culture. Eh bien, c'est à tâtons et jamais réellement, parce qu'ils sont toujours en train de se contredire les uns les autres, parce que rien n'est sûr. On peut pas saisir la vérité, dire elle est là.
On dit les anges, oui.
Les anges, oui. C'est quand même étonnant la différence, hein. Eh bien, ces créatures-là, eh bien, s'offusquent que Dieu puisse imaginer faire une alliance d'amour avec avec une créature aussi aussi petite que l'homme, mais qui soit supérieure à la leur. Dieu n'est jamais devenu ange. En revanche, il est devenu homme. Et c'est ce projet d'incarnation qui est pour les anges une cause de chute.
Alors ça, ils ne comprennent pas, pour le coup.
Ils n'acceptent pas.
Ils n'acceptent pas, oui.
Ils comprennent, peut-être qu'ils comprennent.
Ils comprennent, mais ils n'acceptent pas, en tout cas.
Ils n'acceptent pas. Et Jean, nous livre ça. Ce que la tradition ne nous livrait pas, Jean l'ajoute ici dans l'Apocalypse, c'est quand même extraordinaire. Il nous dit, voilà. Ce que la tradition nous rapporte de la chute des anges, du combat d'abord, et de la chute des anges, eh bien, c'est le prétexte, le motif, c'est l'incarnation du Verbe. Et c'est quand même extraordinaire comme révélation. Et puis, voilà, on arrive, on a ce dragon rouge feu aussi dans le ciel qu'il faut, c'est Lucifer. Mais entre Lucifer, imaginons la créature la plus radieuse,
oui,
la plus belle, comme la femme.
Oui, c'est ça. Devenir dragon.
Dragon.
Une sorte de quelque chose de assez laid, hideux.
Totalement.
Oui.
Alors d'abord, sa couleur. La couleur du feu, littéralement, c'est la couleur de la révolte, de la colère. Et l'image du dragon, dans la Bible, le dragon, ça répond à ce que nous appelons la catégorie du monstre. C'est-à-dire, c'est bien un vivant, mais c'est un vivant qui n'appartient à aucune espèce. Les auteurs bibliques savaient bien que les dragons se reproduisaient pas, que c'était des animaux mythiques, mais qui leur servaient de symbole pour parler d'autre chose. Et donc on a affaire à un vivant, mais qui a perdu toutes ses formes, toutes ses caractéristiques, toutes celles que Dieu lui avait données. Imaginez qu'une personne, on lui enlève d'un seul coup sa colonne vertébrale. On imagine. Tissus deviennent mous, ça devient une espèce de masse. Bon, c'est horrible. Eh bien, voilà ce qu'est un dragon. Voilà ce qu'est un monstre. C'est rien de plus que ça. C'est une créature qui a perdu sa colonne vertébrale. Dieu seul peut nous... Parce que nous venons, les anges comme les hommes, nous venons tous des mains du Père. Nous avons tous été créés par Dieu. Donc lorsqu'on se coupe de Dieu, lorsqu'on veut vivre pour soi-même, et uniquement pour soi, définir le bien, le mal, le vrai, le faux, rechercher une exultation, un bonheur, mais pour nous-mêmes, eh bien, on perd sa colonne vertébrale. Alors, dans les deux sens, à la fois pour l'intelligence et à la fois pour le cœur, vous voyez.
Ça fonctionne ensemble.
C'est-à-dire que une intelligence qui n'est plus finalisée par Dieu, elle devient horizontale. Elle se tourne vers les réalités de notre monde, les réalités matérielles, vers les autres êtres. Mais aucun être, même avec la meilleure volonté du monde, même avec l'amour humain dans ce qu'il a de plus beau, ne peut me finaliser. L'amour humain peut me compléter. Et c'est mutuel, c'est réciproque. Mais ça ne peut pas finaliser, ça ne peut pas donner le sens de mon existence.
Il y a toujours un retour, une fermeture sur soi.
La mort, de toute façon, met un point final et prouve par expérience que c'est pas possible. Nous, on sait que ça s'arrête pas là, mais que ce bonheur-là ne peut pas faire vivre éternellement.
Il est limité.
Il est forcément limité. Et donc, alors ça, c'est pour le cœur, pour l'intelligence, pareil. Une intelligence, eh bien, qui se coupe de Dieu, c'est une intelligence qui devient aveugle, en quelque sorte. Parce que l'intelligence naturelle, prenons cet exemple-là, c'est l'intelligence naturelle créée par Dieu, elle est faite pour mesurer la matière. Et en dehors de la matière, il n'y a pas de pure pensée. Vous voyez, toutes nos pensées, même quand elles sont très spéculatives, sont toujours inspirées par des modèles très concrets, ce qu'on trouve dans la nature. Toujours.
Oui.
Et c'est traduit ensuite en forme mathématique, mais... Par exemple, les mathématiciens, mais même les équations reposent en réalité sur des choses très concrètes, même quand elles sont très complexes. L'intelligence naturelle ne peut pas dépasser la matière. Pour dépasser la matière, Dieu nous a donné une autre capacité. C'est ce qu'on appelle l'esprit, l'âme, qui permet de mesurer ce qui est immatériel.
Encore faut-il que l'affectivité, le cœur et l'intelligence s'ouvrent à cette dimension.
Et voilà, mais c'est là tout le problème. Et si elle parvient pas à s'ouvrir, à recevoir la révélation, et donc à être finalisée par Dieu, bah, elle s'arrête à la matière. Elle peut jamais la dépasser.
Mmh. Et le drame de l'homme, c'est qu'il pense que lorsqu'il, avec son intelligence, il peut, finaliser, être une son intelligence peut être une finalité.
Ah, certains hommes peuvent le penser, c'est vrai. Il y a de grands intellectuels, je pense des gens comme Hegel, par exemple, mais aussi, je sais pas, Einstein, que sais-je. Enfin, je sais pas si Einstein l'a prétendu, mais Hegel l'avait prétendu. Que l'intelligence puisse devenir, la lumière du vrai.
Donc on s'arrête au matériel, quoi.
Mais on peut s'arrêter. De toute façon, on s'arrête au matériel. La matière est une barrière pour l'intelligence naturelle. Il faut à ce moment-là que notre esprit soit rehaussé d'une lumière qui est la révélation. Et donc, Saint Jean, lui, c'est ce qui se passe, il nous le montre concrètement. Il est à Patmos, il voit la matière, il voit le ciel matériel, mais il prie. Et le Seigneur lui accorde, ce don, et le ciel s'ouvre, c'est pas le ciel matériel. C'est les vraies réalités célestes, celles de la foi. Et il peut contempler Dieu. Et il contemple ce grand mystère de la femme et du dragon. Le dragon, c'est donc la créature qui tourne sur elle-même, vous voyez. J'aime à évoquer, moi, les cellules cancérigènes.
Oui.
C'est des cellules qui ne participent plus à la finalité du corps. Une cellule en bonne santé, elle participe,
à l'ensemble.
À l'ensemble, à l'entretien de chaque organe. Des cellules sont préposées pour ça. Tandis que la cellule cancérigène, c'est une cellule qui commence à vivre pour elle-même. Elle est plus finalisée par le bien commun qu'est le corps, et elle travaille pour elle-même, et toutes comme ça, elles se reproduisent, et elle reproduit la même chose. Bien des cellules qui deviennent monstrueuses.
Et le dragon, c'est un peu cette figure symbolique de...
Des amas informes, difformes.
Un grand merci, Père Philippe Playe. Donc, les grandes énigmes de l'Apocalypse, la clé des symboles, nous en parlons ce soir avec vous, à partir de votre livre paru aux éditions Salvator. On se retrouve après 23h.
Radio Notre-Dame.
Pour soutenir les communautés chrétiennes en difficulté, avec l'œuvre d'Orient, le Père Pascal Golnisch.
La semaine dernière, se sont retrouvés à Rome les différents organismes qui aident les chrétiens du Moyen-Orient. Cette réunion, qui a lieu deux fois par an, est organisée par la Congrégation pour les Églises orientales, en quelque sorte les collaborateurs du pape qui l'aident dans ce qui relève des églises catholiques de rite oriental. Se sont donc retrouvés à Rome différents organismes, certains venant des États-Unis, comme la CNEVA, qui est une sorte de fille de l'œuvre d'Orient, car l'œuvre d'Orient l'a implantée aux États-Unis, mais encore des organismes allemands, et également l'aide à l'Église en détresse, ainsi que le Saint-Sépulcre, d'autres organismes encore. Cela nous permet de nous connaître, cela permet d'écouter les responsables de la Congrégation pour les Églises orientales, qui ont parfois des projets à nous soumettre d'aide aux chrétiens du Moyen-Orient. Cela a été aussi l'occasion d'écouter le nouveau patriarche maronite qui est venu s'adresser à nous. Le nouveau patriarche maronite sera sans doute début septembre à Paris. Il est d'usage qu'un nouveau patriarche maronite rencontre le président de la République française. Si cette visite était confirmée, bien sûr, nous en tiendrions informés les auditeurs pour recevoir le nouveau patriarche maronite dignement. Il y avait également le patriarche copte catholique qui a évoqué la situation dans son pays. Il nous a partagé ainsi ses espoirs et ses inquiétudes. Nous avons été reçus par le Saint-Père, qui a évoqué de nouveau la situation des chrétiens au Moyen-Orient, qui a dit l'importance qu'il attachait à ces églises orientales, qui nous a demandé d'intensifier nos efforts pour être aux côtés de nos frères chrétiens d'Orient.
Radio Notre-Dame. Thank you.
Écoute dans la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
Voilà, ce soir nous sommes en compagnie du père Philippe Plet, qui est passionniste et qui est donc recteur du sanctuaire marial Notre-Dame du Croc dans l'Aude. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci, le dernier en date, Les grandes énigmes de l'Apocalypse, la clé des symboles, c'est paru aux éditions Salvator. Alors c'est vrai que cette grande fresque de l'Apocalypse, qui est finalement la révélation faite à Saint Jean, de ce ciel ouvert, on peut dire, où il contemple le projet de Dieu, la pensée de Dieu, et donc ce drame qui va se nouer aussi, parce que ce combat entre le dragon et Dieu, finalement, entre l'adversaire de Dieu et Dieu, la révolte des anges, qui n'ont pas accepté le projet de Dieu de l'incarnation du Verbe. Parce que Dieu va s'incarner, et ça, le dragon n'accepte pas cela. N'accepte pas que l'homme supplante les anges.
Oui, tout à fait, d'une certaine façon.
D'une certaine façon.
Supplanté, oui.
Voilà, il y a une sorte de rivalité, de jalousie de la part des anges, qu'une créature matérielle, enfin qui va avoir un corps matériel, et donc aussi une intelligence limitée par rapport à eux, aux anges, que Dieu, on ne peut pas dire le préfère, va avoir un projet particulier, et même va lui-même envoyer son fils qui va s'incarner. Donc ouais. Là, il y a quelque chose que l'ange n'accepte pas. Enfin, Lucifer n'accepte pas cela.
Ah non.
Et donc, n'acceptant pas, il va devenir... il va prendre cette forme hideuse, finalement, puisqu'il n'a plus... Il perd son... ce rayonnement, en perdant l'amour, finalement, parce que la beauté, c'est l'amour.
C'est un symbole, c'est effectivement, d'un cœur tourné vers Dieu.
D'un cœur tourné vers Dieu. Or là, tournant le dos à Dieu, on peut dire, il va devenir informe, hideux, enfin, l'aspect... l'aspect d'un être, d'un monstre.
Et ouais, ça va devenir un égocentrisme monstrueux.
Alors, donc, nous sommes au ciel, là, hein, c'est le... Voilà.
Oui.
Ce projet va s'incarner. Alors, ça va s'incarner, et c'est donc l'incarnation du Verbe. Puisque la femme est poursuivie par le dragon, elle va enfanter. C'est dans le projet de Dieu au ciel. Et ça va se vivre, Dieu va envoyer son fils, ça va sur terre. Donc l'incarnation va se vivre sur notre terre. Et ça, c'est... Donc on peut dire que cette figure de la femme, c'est la Vierge Marie.
Alors l'Église a toujours interprété cette femme d'une manière double, et à juste titre, la Vierge Marie, l'Immaculée.
Oui.
Et puis l'Église. L'Église dans ce qu'elle a de parfait, l'Église dans le projet tel que Dieu la désire de toute éternité. Les commandements de Dieu, quoi. Devenir des élus, les 144 000 sont à l'image de ce désir divin. Et la Vierge Marie en est l'icône, en quelque sorte.
Mm-hmm.
Saint Jean, lorsqu'il écrit sa prophétie, il sait très bien, puisqu'il a été apôtre, selon la tradition nous le confirme, eh bien, il sait très bien que le Verbe s'est incarné. Il sait aussi qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité. Il reçoit vraiment une prophétie pour les temps derniers, pour quelque chose d'ultime, une leçon. Et à travers ce déploiement historique, il nous donne une leçon sur le sens de l'incarnation. Mais il s'appesantit pas, il nous en donne pas la description. D'abord, il a consacré un évangile entier à ça.
Oui.
Et puis, il l'évoque en revanche. Quand on passe du ciel, alors du ciel, les deux personnages principaux là qui nous sont montrés, enfin c'était l'enfant en fait, mais il est ramené auprès de Dieu. Le dragon ne peut pas le dévorer, c'est-à-dire il ne triomphe pas au ciel. Dieu ne change pas d'avis, parce que Dieu est parfait. Donc le dragon, lui, est rejeté sur la terre, mais la femme aussi est envoyée sur la terre. Et la femme, c'est l'Église à ce moment-là, fondamentalement. C'est d'abord l'Église, avant même d'être l'image de la Vierge Marie. elle est cette Église parfaite. L'idée, je dirais le programme, l'Évangile, celle qui porte Dieu dans le monde, mais à travers l'histoire, pas et dans les derniers temps. Vous voyez, donc on n'est pas, c'est pas une description, c'est pas une référence en tant que telle, me semble-t-il, à l'incarnation du Verbe qui a eu lieu il y a 2000 ans. Mmh. Mais ça y fait référence.
Oui.
Ça, une référence explicite. Et alors, sous la forme d'un serpent cette fois-ci, vous voyez, ce dragon va, sous la forme d'un grand serpent, il va cracher comme un fleuve d'eau derrière la femme pour l'engloutir. Et le texte nous dit bien que la terre s'entrouvrit pour absorber l'eau du fleuve. Très vite, le serpent c'est la ruse, c'est un autre aspect, vous voyez, le diable se métamorphose, comme à l'époque d'Adam et d'Ève. Le serpent par la ruse. La ruse, c'est le thème, donc un thème d'intelligence. Le fleuve d'eau, là, j'ai pas le temps de développer, mais c'est l'ensemble des valeurs religieuses. Alors, de tous ordres, mais religieuses. Ça, dans la Bible, c'est les nations païennes sont définies par le nom du fleuve qui les traverse, par exemple. C'est des cultures. Donc, on a affaire ici à une culture qui voudrait absorber, donc contester, donc anéantir bien ce que la femme représente, c'est-à-dire le message évangélique. Donc un contre-évangile, une contre-culture chrétienne en quelque sorte, pour dénigrer, pour que les hommes, eh bien, rejettent cette idée, la trouvent absurde, que sais-je. Mais il est dit qu'à ce moment-là, justement, Saint Jean nous dit, mais attention, là, à ce moment-là, les hommes n'ont pas encore choisi de suivre le dragon. Le dragon n'a pas encore séduit l'humanité entière. Et donc, la terre, c'est-à-dire l'ensemble des habitants de la terre, eh bien, absorbe le fleuve d'eau, c'est-à-dire permet, eh bien, de la liberté, à la fois pour le... certes pour le dragon, mais aussi pour la femme, pour l'Église, eh bien de vivre, de témoigner, d'inviter les hommes à la conversion. Et les ailes du grand aigle, le désert, tout ça c'est lié. Elle va être emportée dans un lieu où elle ne pourra jamais tomber sous l'emprise du dragon désormais. Le dragon va s'attaquer au reste de ses enfants. Ce désert, c'est le lieu de la contemplation. Lorsqu'on contemple, bah, comme Jean, vous voyez, ce qui est éternel, ce qui vient de Dieu, eh bien, par définition, on n'écoute pas la voix du monde, on est au désert, c'est le lieu où les hommes n'habitent pas. Et un lieu que les hommes ne transforment pas, par leur culture, par leur action, etc. Mmh. Donc c'est un lieu vierge, qui a les caractères que Dieu lui a donnés, donc il nous parle de Dieu, et c'est là, je dirais que, en dehors même du combat qui va avoir lieu maintenant, par rapport aux croyants, mais l'Église en tant que telle, eh bien, tout est préservé pendant 1260 jours, nous dit Saint Jean.
Oui, 1260
jours. Alors là encore, ce serait une explication. Mais ça va correspondre, ce séjour, il est borné, vous voyez, il est limité. Il va, à la fin de ce séjour, là, je renvoie nos auditeurs à mon livre, eh bien, ça correspond à l'arrivée de l'agneau sur le mont Sion. Elle va rester au désert jusqu'à l'arrivée de l'agneau sur le mont Sion, c'est-à-dire au moment où tout semble perdu pour elle. Eh bien, le Seigneur vient la sauver.
Alors justement, entre-temps, il y a ces deux bêtes qui œuvrent et qui sont des émanations, on peut dire, du dragon, parce que le dragon n'agit pas directement, mais par l'entremise de ces deux bêtes, d'abord celle de la mer et de la terre.
Exactement. On s'aperçoit que au ciel, le lieu des principes par excellence, il ne peut pas se cacher. Il est bien, il est là, il est à la tête, c'est lui qui décide de tout. Contre la femme, mais ça c'est l'Église dans sa perfection, on pourrait dire, je dirais l'Église des saints par exemple. Vous voyez, donc des gens qui ont un discernement, le discernement du désert. Les pères du désert passaient leur temps à lutter contre les mauvaises pensées,
bien sûr,
aidés par les bons anges. Oui. C'est un lieu où on voit clairement la lumière et les ténèbres, où les choses sont pas cachées, pas mélangées, comme dans les villes, dans le monde des hommes en quelque sorte. Derrière, il y a toujours des apparences qui nous cachent les véritables enjeux. Tandis que quand on est au désert, les ermites par exemple, eh bien là c'est un lieu privilégié pour voir les choses, pour se simplifier, être simplifié par Dieu. Et voir vraiment les choses telles qu'elles sont. Donc, on identifie.
Mais
donc, il ne peut pas se cacher.
Mm-hmm.
Quand il est au niveau de la femme, au désert, il ne peut pas se cacher. Mais, en revanche, quand il se tourne contre les croyants, les croyants sont de plusieurs types, ils sont encore imparfaits. Et là, il va se cacher. Là, il ne se manifeste pas, le dragon. Et il va susciter deux bêtes qui vont agir en son nom. Alors, ces bêtes, la première est issue de la mer et l'autre de la terre.
Alors donc cette bête de la mer qui représente les idéologies, elle va Elle est subtile, elle va insinuer dans, justement, dans le cœur de l'homme, peut-être, des pensées, des idées qui vont être mises en œuvre après par la bête de la terre.
Exactement, c'est tout à fait ça. C'est le dragon a un programme. Et il va, la bête de la mer, la bête qui surgit de la mer, elle est à son image d'ailleurs. On nous la décrit comme une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Et à l'image du dragon qui a 7 têtes et 10 cornes, lui aussi. Tandis que la bête de la terre a un autre aspect, plus humain. On a fait songer à un agneau. Cette bête de la mer, elle est le porte-parole du dragon. C'est elle, vous voyez, c'est la séductrice. C'est elle qui va séduire les habitants de la terre. Alors certes pas sous sa forme monstrueuse.
Oui, c'est ça.
Mais cette forme monstrueuse, elle est l'image d'une intériorité, de l'intériorité démoniaque. C'est ce que Jean veut nous montrer. Vous voyez, derrière ce symbole, c'est un symbole de déséquilibre. 7 têtes, 10 cornes, eh bien, il n'est pas facile de répartir 10 cornes d'une manière homogène
sur
7 têtes. Oui. Ça nous montre, les deux chiffres sont parfaits en soi. Le 7, bien sûr, c'est un chiffre parfait, c'est le chiffre de l'Esprit Saint, de la plénitude de la connaissance. Les têtes, c'est un signe d'intelligence. Donc on a...
Une sorte de plénitude, mais dans le sens inversé.
Ça marche bien, le côté d'intelligence. Les cornes, c'est un symbole de puissance, d'action, vous voyez, les 10 doigts de la main, c'est l'action parfaite. Le symbole est simple. Hein.
Oui.
Donc les 10 cornes, ça correspond à une capacité d'action parfaite. Et voilà que, eh bien, il y a quelque chose qui est disproportionné néanmoins. La puissance, vous voyez, cette puissance d'action est supérieure, déborde la maîtrise. L'intelligence, c'est elle qui maîtrise, qui mesure l'action. Vous voyez, comme c'est, il n'y a pas longtemps, là, on a vu au Japon, par exemple, eh bien, que les centrales nucléaires ont échappé à la maîtrise. Elles se sont emballées, le tsunami a mis son dessus-dessous les précautions, ce qu'on avait prévu pour les alimenter, et donc les réacteurs ont chauffé, ça a échappé, vous voyez,
à la maîtrise de l'homme.
On a une puissance qui est trop grande. D'autres, vous voyez, pour donner un autre exemple, vous avez des gens qui peuvent être tentés de se servir d'une très grande puissance, des armes par exemple, destructrices, des bombes très fortes, des terroristes par exemple, qui sont vraiment tentés d'utiliser ces armes-là. Ils les ont, alors ils vont les utiliser, vous voyez, parce qu'ils les ont. Et il y a une espèce d'entraînement irrationnel qui commence à entrer. Et pas seulement les terroristes, d'ailleurs, ça malheureusement...
Oui, c'est la violence sous toutes ses formes.
Sous toutes ses formes. D'ailleurs, on a une puissance, pareil, la gestion du monde, l'argent. Avec cette puissance, eh bien, on arrive à en vouloir toujours davantage et puis à sacrifier finalement le vital, à sacrifier l'équilibre. Notre crise économique, elle est née justement de cette espèce d'emballement de toujours gagner davantage... etc.
Et c'est sans voir la finalité.
Sans finalité, parce que d'abord c'est monstrueux. Et puis, mais aussi sans contrôle. Parce qu'ils ne sont pas tout à fait idiots. Et s'ils avaient un peu réfléchi au déséquilibre qui allait naître de ce déchaînement, je dirais, de convoitise, eh bien, quelqu'un de rationnel aurait mis les limites. Tandis que là, on est dépassé par la puissance. Et bien voilà, notre bête, elle est comme ça. C'est l'intériorité démoniaque, c'est sa caractéristique, nous dit Saint Jean. Il y a une espèce de débordement. La créature perd la maîtrise. C'est la définition de la colère aussi. La colère, on perd la maîtrise de soi. Quoi. Vraiment, le dragon est... C'est vraiment la perte, un déséquilibre. Vraiment, tout penche vers la matière, vous voyez, et l'intelligence, c'est au contraire quelque chose qui devrait tirer vers le haut, le transcendant, vers Dieu. Eh bien, elle est débordée, vous voyez, par l'attraction de la matière, par ce qu'on peut faire avec la matière, etc.
Alors, la matière étant limitée, eh bien voilà, c'est ça crée, lorsqu'il y a débordement, il n'y a plus de la capacité d'accueillir.
Ça fait faire des bêtises, moi je dirais. Les bêtises, on va les voir tout de suite. C'est avec ce beau programme. Le beau programme que l'idéologie, dont elle est le porte-parole, la bête de la mer, et qui séduit des habitants de la Terre. Donc c'est pas son aspect qui les séduit, c'est vraiment une idée. Oui. Eh bien, cette idée-là, c'est de construire un monde, voyez, mais fondé
parfait.
Sur la révolte. Un monde parfait. Oui. On est tous habités, il faut bien y réfléchir par le désir, eh bien, de vivre le paradis terrestre ici-bas. On a tous envie de vivre ici et maintenant une plénitude de bonheur. Et on est scandalisé par le mal, par tout ce qui limite justement cette aspiration intérieure qu'on considère comme étant la plus juste du monde. Mais en même temps, faut relativiser ça. Elle est juste si elle est selon les desseins de Dieu. Sinon, elle n'est pas juste. Mmh. Et c'est là le hiatus où, que corrige la foi. La foi nous permet de nous dire, de mettre des limites, d'avoir, un équilibre entre la tête et les cornes, entre la tête et l'action. Donc le croyant peut se dire, ben voilà, ce paradis, mais je vois bien que sans Dieu, et Dieu n'est pas. Le paradis terrestre n'est pas le but, le paradis, tout court, pardon, n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que le paradis, il est en dehors du monde matériel, il est après cette existence. Or, la bête de la mer va récupérer cette idée qui nous habite tous, vouloir vivre le paradis, eh bien en disant, ben voilà, ce Dieu est affreusement égoïste, ce Dieu qui nous a créés, notre créature, à vous les hommes comme nous les hommes, eh bien il veut se réserver le bonheur, à lui seul. Il nous a créés, mais pour avoir seulement des portions de bonheur, eh bien on va lui donner une bonne leçon. Nous, on va le chasser du monde, on va s'organiser du monde,
oui.
On va construire ce beau paradis. Et mais tant qu'il y a l'Église, la femme, revêtue de soleil, eh bien ça marchera pas. Donc il faut qu'on
ait
tous ces chrétiens, et il faut qu'on les combatte, et puis vous verrez après comme le monde sera beau. Ah, après, une fois qu'ils seront plus là, on va pouvoir construire, Dieu n'aura plus de soldats dans le monde, en quelque sorte, d'espions, et on pourra construire, on va construire un beau monde idéal, etc. Et c'est la deuxième bête. Celle de la Terre, qui alors, elle, vous voyez, c'est plus au niveau de l'idée de la séduction, elle, c'est au niveau de la réalisation concrète. Elle, c'est sa vocation démoniaque de réaliser concrètement, eh bien, de ce monde parfait. Elle va donc elle va dire, il faut adorer la première bête, son programme, quoi. Et il faut construire une. Elle fait construire aux hommes. C'est les hommes qui construisent. Hein, c'est
elle inspire
une image, une image de la bête qu'il faut adorer. Et puis nul ne pourra acheter ni vendre s'il ne porte le chiffre.
Le fameux 666.
De la bête, exactement. Et voyez, donc, on nous parle d'une cité commerçante, d'une société commerciale, déjà, d'emblée, c'est situé comme ça. En fait, Saint Jean nous donne la réponse pour identifier cette image de la bête. Les commentateurs cherchent en se disant, oh, dans l'Antiquité, on faisait bouger les statues, ou bien aujourd'hui, on dirait, tiens, la télévision, des images qui parlent, vous voyez, qui bougent et qui parlent, ou Internet, mais c'est bien plus que ça, ça c'est trop matériel, toutes ces explications. Non, Babylone, c'est l'explication que Jean nous donne. C'est-à-dire, c'est la société, le paradis terrestre imaginé par le dragon. C'est qu'il souffle aux oreilles des hommes. Et on se rend compte, on l'a évoqué en début de l'émission, justement, ce Babel, cette construction inlassable et tenter de construire une société où, enfin, affranchi de Dieu, soi-disant, eh bien, on pourrait construire quelque chose qui réponde à notre désir de bonheur total. Or, à chaque fois, Dieu met en crise les fléaux,
voilà.
Ces tentatives, et pour montrer aux hommes que c'est pas possible.
Mais vraiment, c'est une bonne chose, ces crises.
Mais c'est une excellente chose.
Ça empêche
c'est des invitations.
D'aller vraiment directement dans la perdition.
Exactement. Mmh. Mais tous les hommes ne s'en rendent pas compte, ils ne se convertissent pas pour autant. Au contraire, ils se durcissent. Ils font comme le diable, qui devient alors leur père, en quelque sorte, comme dit Jésus dans l'Évangile.
C'est père du mensonge.
Et ils entrent dans le mensonge et ils se révoltent. Au contraire, ben c'est de la faute de Dieu si ça marche pas. Ils se rendent pas compte que c'est tout simplement, j'irais presque une construction mécanique. On sort tous des mains de Dieu et on ne peut trouver qu'en lui notre bonheur et notre destination.
Encore
et cette réalité, pour ceux qui la refusent, et ben c'est comme un mur, ils se tapent la tête contre le mur sans vouloir l'entendre.
Et ça peut durer, voilà, mais c'est la liberté de l'homme.
Et ça, c'est tout le problème de la liberté de l'homme. Mais on voit avec ces deux bêtes, donc le séducteur et puis le réalisateur, en quelque sorte, le constructeur de société idéale, la bête de la terre, eh bien, on voit que le monde entier est obligé et contraint de sortir du non-choix. Parce que si vous n'adhérez pas à cette construction, à ce beau programme, à la construction de Babylone, eh bien vous êtes en dehors. Et vous ne pouvez plus ni acheter ni vendre. Vous êtes complètement marginalisé. Donc on voit bien que là, le monde devient dur. Là vraiment, c'est un monde... Quand un monde ne laisse plus vivre ceux qui n'acceptent pas d'être corvéable à souhait pour sa construction, eh bien là, on entre vraiment dans les tyrannies.
Et c'est là où Dieu ne va pas laisser faire, va intervenir.
Et Dieu va finir par intervenir, heureusement, pour l'humanité.
On se retrouve dans quelques instants.
Parole d'évêque.
Parole d'évêque.
Tous les jours, un évêque différent répond aux questions de Clément Soudaille à 11h30 et 17h.
Monseigneur Gérard de Cour, bonjour.
Bonjour.
L'actualité.
Peu importe le modèle politique, l'important c'est la grandeur d'âme.
La vie de l'Église.
Parabole d'unité, je crois que c'est cela, la réalité de Thésée.
La vie du diocèse.
Nous avons la chance d'avoir un certain nombre de gens du voyage qui sont des catholiques formidables.
Décrypté par un évêque d'Île-de-France.
Merci, Monseigneur. Merci, Clément.
Parole d'évêque, tous les jours, à 11h30 et 17h. Retrouvez l'intégralité de cette émission le dimanche à 10h.
Pour découvrir ce que vit l'Église aujourd'hui à travers le monde, sa vitalité et sa détresse, pour partager avec nos frères leurs témoignages d'enthousiasme pour l'annonce de l'Évangile et de souffrance face à la persécution, retrouvez l'émission L'Église dans le monde, avec l'aide à l'Église en détresse, les jeudis à 14h30 et le dimanche à 19h45.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Radio Notre-Dame vous invite à suivre en direct les grandes célébrations dominicales. À 16h, retrouvez l'office de vêpres depuis la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Et à 18h30, la messe à la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Le Seigneur soit
en union de prière avec des milliers de fidèles, les grandes célébrations du dimanche à 16h et 18h30 sur Radio Notre-Dame.
Vous vous questionnez sur votre foi? Vous voulez mieux comprendre l'Église? Vous avez des doutes? Sacrement, liturgie, écriture sainte? Chaque semaine avec un spécialiste, découvrez le sens des signes essentiels de la foi chrétienne. À quoi ça sert l'Église? Des repères pour aller plus loin. À quoi ça sert l'Église? Tous les samedis à 8h et le dimanche à 17h30 sur Radio Notre-Dame.
Voilà, donc ce soir, eh bien, nous sommes en compagnie du Père Philippe Play, et qui est passionniste et qui nous parle des grandes énigmes de l'Apocalypse à partir de son livre qui porte le même titre, en sous-titre, Les clés des symboles, c'est aux éditions Salvator. Alors là, je pense, Père Philippe Play, vous voulez nous, au-delà, à chaque époque, on peut interpréter le dragon. À l'époque de Saint Jean, par exemple, c'était l'occupation romaine.
Les Romains.
Bon, à chaque époque, on peut voir ce dragon. Il prend des formes différentes selon les cultures, selon les époques. Voilà, on peut.
Ah, tout à fait. C'est normal.
Oui, bien sûr, parce que c'est juste en un sens.
Il y a à toutes les époques, eh bien, il y a en tout cas quelque part dans le monde, enfin dans des endroits clés, chrétiennement ou autres d'ailleurs, mais des incarnations des situations apocalyptiques. Donc, il est logique de pouvoir assimiler la bête de la mer avec. Donc, au premier siècle de notre ère, la bête de la mer, c'est l'Empire de Rome, qui n'est pas converti à l'époque de Saint Jean, et qui persécute les chrétiens. Donc, avec cette clé de la persécution des chrétiens ou de l'Église, de son message, eh bien, on va pouvoir identifier au long de l'histoire, eh bien, les grands protagonistes. Alors, les médiévaux, par exemple, eh bien, on assimilait la bête de la mer avec l'islam. Parce que l'islam, eh bien, était en guerre avec le christianisme, et l'islam était déjà c'est ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un système religieux qui ne permet pas d'accueillir le message chrétien. Les chrétiens sont voués à la damnation dans le Coran. Ils sont des impurs. D'autres, ensuite, d'une manière plus moderne, avec le 18e, 19e siècle, surtout au 19e, surtout c'est la franc-maçonnerie, qui va poursuivre une action minutieuse contre l'Église. Vous avez ensuite, le 20e siècle nous a montré le marxisme, Et le 21e siècle continue de nous montrer aussi cet exemple dans certains pays.
Il y a donc, eu aussi le nazisme aussi.
Il y a le nazisme, évidemment, oui, il ne faut pas l'oublier. Et donc on a comme ça des réalités, des idéologies ou des religions qui représentent qui font front, à l'Église, au christianisme, qui n'accepte pas de coexister avec lui, quoi. Et qui deviennent persécuteurs. Alors, dans ces cas-là, il est logique et normal d'y voir une figure du mal. Ce serait absurde de ne pas le faire.
On peut dire aussi les lois aussi actuelles.
Les lois, c'est les moyens concrets, ça.
Oui, contre la vie.
Alors là-bas, c'est la société, agnostique, la société libérale qui est la nôtre, une société qui voudrait s'autogérer sur l'argent. Alors ça, c'est extraordinaire aussi. C'est un monde sans valeur morale en tant que tel, qui ne fonctionne que par rapport aux intérêts, à l'offre et à la demande, et aux puissances, finalement, des lobbies qui peuvent être représentés. J'ai été très impressionné par le projet de loi pour l'Europe que la France avait refusé. C'était inspiré, vous voyez, d'un modèle physique, l'auto-organisation du chaos. C'est-à-dire une situation de chaos moléculaire finit par trouver un équilibre, et un équilibre par lui-même, un équilibre à travers les forces. Et donc on essayait d'imaginer, ça à tâtons, mais c'était d'ailleurs intellectuellement intéressant, mais malheureusement existentiellement très risqué, eh bien une société qui s'autogérerait à travers tous les conflits d'intérêts, de groupes. Et l'équilibre se trouverait en fonction des forces et des intérêts mutuels. Vous voyez, une espèce de gouvernance sans plus aucune valeur.
Aucune référence.
Ni aucune philosophie.
Oui.
C'est impressionnant tout de même.
Et c'est quand même notre monde un peu...
C'est le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde occidental. Et ce monde occidental, les élites politiques continuent d'aller dans ce sens-là, de croire à la validité d'un tel système, et c'est à mon sens suicidaire.
Avec une pensée unique, on peut dire.
Très forte, mais qui s'impose, avec douceur, elle s'impose par l'hédonisme, c'est par l'argent, par le confort. Et on voit, c'est vrai, les pays qui s'enrichissent, les gens, se laisser glisser moelleusement, paresseusement, dans ce système sans valeur, parce que l'argent rend tout confortable, et perdent leur âme. Ils perdent leur cœur, ils perdent leurs idéaux. On voit bien comment... c'est une espèce de culture sans valeur qui phagocyte toutes les cultures, qui les transforme en folklore.
Et qui anesthésie complètement les consciences.
Ah, totalement. Ça, il ne faut pas avoir de valeur, il ne faut pas... répondre en fonction... un petit peu comme dans l'Évangile, ça me rappelle, moi, une parabole de Jésus qui disait les gens de cette génération sont comme des enfants qui s'interpellent sur une place publique.
Oui, oui, oui.
On vous a dit de chanter et d'être joyeux, mais vous n'avez pas voulu, et puis on pleure, parce qu'on a des problèmes, vous voyez, il y a des crises dans le monde, etc., mais vous pleurez pas avec nous. Et vous voyez, on accuse un peu les chrétiens d'être en déphasage par rapport à ça, et ce qu'on demande en contrepartie, pour être du monde, c'est d'éprouver finalement les mêmes angoisses que le monde et les mêmes joies que le monde. Or, pour nous qui avons la foi et qui sommes finalisés, donc qui avons cette colonne vertébrale qui dépasse la matière, eh bien, c'est Dieu seul qui nous permet de nous réjouir en fonction d'autres critères, le salut. Le salut des âmes. Voilà le véritable enjeu du combat spirituel. Et c'est vrai que notre société, qui a l'air, bien gentille, bien respectueuse, est en réalité une société très agressive religieusement.
Alors, justement, dans il y a ce fameux chiffre de la bête, 666. Est-ce que vous voulez dire un mot de ça? Qu'est-ce que ça représente, ce chiffre? Et comment on peut l'interpréter aussi aujourd'hui?
Il y a beaucoup d'interprétations très matérielles. Le code barre, par exemple. Donc, je les récuse. C'est pas comme ça qu'il faut essayer de trouver le 666. Le 666, c'est le chiffre de la bête, le chiffre de son nom, nous dit Saint Jean. Or, précisément, la bête de la mer, c'est celle-là dont il s'agit, n'a pas de nom. c'est la bête de la mer. Donc déjà, on commence par quelque chose qui est assez incompréhensible. Et en fait, ça va nous diriger là. Quand on interprète en se disant, bah, c'est le sixième jour de la création, avec un rythme ternaire, quoi, trinitaire, le sixième jour, c'est l'homme qui est créé, donc c'est un chiffre d'homme divinisé, en quelque sorte. On dit pas grand-chose, c'est pas absurde de dire ça, mais ça va pas assez loin, me semble-t-il. Non, le 666, c'est ce qui définit la bête elle-même et le dragon, bien sûr. Donc, quelqu'un qui n'est pas finalisé. Or, quelqu'un qui n'est pas finalisé, c'est quelqu'un qui va quand même rechercher, parce que ange et homme sont des créatures spirituelles. Donc, ce qui se développe dans ce cas-là, c'est une intériorité qui tourne dans le vide, en quelque sorte. Et le 666 est lié à cela. Là, je peux pas tout expliquer en détail, il suffira de voir le commentaire.
Oui.
Mais, dans la phrase de Saint Jean, lorsqu'il nous dit qu'il faudra adorer la bête, l'image de la bête ou le chiffre de son nom, il le dit à propos des élus, ceux qui ont été victorieux de la bête, de l'image de la bête ou du chiffre de son nom. Vous voyez, vous avez un mouvement là qui est tracé entre en trois parties, en trois points. C'est un mouvement d'abstraction. On part de l'original, la bête. Passe par un stade intermédiaire, l'image qui le représente, c'est déjà plus l'objet, c'est plus la personne. Mmh. Et puis on arrive à un chiffre mathématique conventionnel qui la représente, la désigne d'une manière totalement abstraite. C'est l'abstraction. Ça fait penser par exemple à l'ésotérisme, vous voyez. L'ésotérisme, qu'est-ce que c'est? C'est une intériorité qui recherche toujours, mais là où il faudrait pas, dans l'immanence, dans le monde matériel, le divin. C'est une intériorité qui scrute justement les symboles de l'Apocalypse. Saint Jean est très malicieux pour le 666. Il nous dit, écoutez bien, le chiffre de son nom, c'est 666. Que celui qui a l'esprit de sagesse, qu'il s'y exerce et qu'il trouve le sens de ce terme. Il est très malicieux parce que il va nous faire entrer, effectivement, c'est le premier réflexe, on part à la recherche.
Oui,
on fait confiance à Saint Jean.
Oui, oui.
Or, Saint Jean est un peu moqueur, me semble-t-il. Il veut nous faire expérimenter. Vous voyez, on fait toutes les hypothèses. Imaginez toutes les hypothèses qui ont été émises. Les 666 carreaux de la pyramide du Louvre, elle est composée de 666 carreaux. Enfin, il y en a partout des 666. Et alors, on cherche partout les 666. Déjà, Irénée, au 1er siècle de notre ère, disait, les lettres... la gématrie, là, c'est les lettres qui ont des valeurs numériques. Certains noms ont vraiment des valeurs de 666. C'est des noms qui n'avaient rien à voir avec le problème du mal, quoi. Donc, ils se disaient, vous voyez, 666, on peut le trouver partout. Et donc, quelqu'un de raisonnable s'arrête au bout d'un moment. Il se dit, mais cette recherche, c'est complètement vide. Elle est complètement abstraite. Je ne dois pas faire justement ce que me dit Saint Jean. Le 666 représente cette espèce de mysticisme du vide, d'une créature qui n'est plus finalisée. Et Saint Jean réussit d'une manière merveilleuse à nous faire expérimenter. Il nous oblige à...
Ah oui,
à chercher un mystère qui en réalité n'existe pas. Alors ça c'est pour le premier aspect. Le deuxième aspect plus substantiel du 666 est lié à la bête elle-même, mais là, franchement, il faudrait une émission complète pour le développer.
Alors, il est question, Babylone va être vaincue par... il est question de dix rois aussi, dans ce...
Ah oui, pour Babylone.
Oui.
Oui, Babylone est une ville dont la puissance, elle nous est représentée, elle repose sur une bête écarlate, c'est le dragon, la bête écarlate.
Et elle est l'épouse du dragon.
En quelque sorte, oui, c'est l'épouse du dragon, on peut la nommer comme ça, parce que de même que la femme, c'est l'épouse de l'agneau, la Jérusalem nouvelle, de ville antinomique. Et elle repose, c'est-à-dire que toute sa puissance repose sur le dragon. Mais les gens ne voient pas le dragon, ils voient que la femme, la grande prostituée, nous dit Saint Jean, qui s'enivre du sang des saints. Et elle brille. Mais elle brille pas comme la femme revêtue de soleil, de la lumière d'en haut, elle brille d'or. Elle est resplendissante d'or. Et vous voyez, par rapport à la femme revêtue de soleil, c'est vraiment une antithèse, mais toute terrestre, toute matérielle. Et alors, on nous dit un peu plus loin, eh bien que cette femme, elle repose sur les sept têtes du dragon, qui sont ces sept rois. Mais il y a aussi ces fameuses dix cornes dont vous parlez, qui sont dix rois, eux aussi. Et il va y avoir, eh bien, une lutte entre les sept têtes, les sept rois, donc, et les dix autres rois, les dix cornes. Or, il s'agit bien du même animal, comme vous le suggérez par votre question. C'est l'intériorité démoniaque dans son caractère d'autodestruction que Saint Jean nous montre là. Vous voyez, les sept têtes ont un projet, Babylone. Et puis, voilà que les cornes, qui sont portées normalement par les têtes, qui appartiennent au dragon,
oui.
Eh bien voilà qu'il y a une contradiction qui naît en lui. Et en fait, les dix rois vont s'attaquer à Babylone, au projet de la bête. Une sorte de modèle de schizophrénie spirituelle.
Et d'autodestruction.
Et ça conduit à l'autodestruction. Parce que la grande leçon que Jean veut nous montrer, c'est que le mal ne peut rien construire. Le mal peut détruire, mais le mal ne peut rien construire. Parce qu'il y a quelque chose d'irrationnel qui l'entraîne, ce déséquilibre profond qui fait que sa rage, sa révolte détruit tout. C'est l'empire de la mort, l'empire du chaos. Le mal ne peut pas être autre chose.
Alors, que se passe-t-il après la destruction de Babylone ?
Après la destruction de Babylone, eh bien c'est l'épisode de la bataille d'Armageddon qui nous est raconté par Saint Jean. On l'a évoqué là aussi déjà en début d'émission, c'est la victoire de l'agneau. L'agneau va reprendre les choses en main. On a cette belle description des élus qui le suivent, qui constituent son armée. C'est pas eux qui combattent, mais en même temps, ils doivent suivre l'agneau partout où il va. Donc, ils doivent combattre le mal, l'Armageddon entre autres, c'est-à-dire le dénoncer. Ils sont purs, nous dit le texte. Ils sont immaculés, ils n'ont pas connu de femme. Alors, c'est pas les femmes au sens du sexe, parce que dans les élus, il y a autant d'hommes que de femmes. Il s'agit des idoles. Dans la Bible, les femmes, ça indique, c'est un symbole pour les idoles aussi. Ou les poux d'ailleurs. Ils sont purs. Ils n'ont pas communié à ces fausses espérances que le monde propose, l'enrichissement, les plaisirs. Alors ça, c'est tout Babylone, le déploiement de luxe, de plaisirs sous toute forme, mais aussi d'esclavage. Qui caractérisait Babylone. Ils n'ont pas communié aux valeurs de Babylone, ils n'ont pas cru à l'idéal de Babylone, ce paradis terrestre que l'humanité qui suit le dragon veut construire. Et puis, avec toujours cette question, pourquoi faire, mais qu'ils ne se posent pas assez, malheureusement. Or, les élus, ont cette sagesse de se dire, mais à quoi ça mène, de toute façon, ça ne mène nulle part, sinon à l'autodestruction.
Oui.
Donc, ces élus-là suivent l'agneau. Ils sont les prémices, nous dit le texte, les prémices de l'humanité. C'est-à-dire, prémices, ça veut dire consacrer, ce qu'on consacre d'une récolte, qu'on consacre d'un bétail, ou même de sa famille, les premiers-nés. Eh bien, c'est-à-dire que ceux qui prennent la foi vraiment au sérieux, qui construisent leur vie et qui se laissent verticaliser par la foi. Ne restons pas au niveau trop psychologique, au niveau trop humain, il faut oser avoir un peu le vertige et faire de sa vie une vie vraiment consacrée par l'amour et la vérité, par Dieu. Et donc, ceux-là suivent l'agneau. Mais c'est l'agneau qui, par lui-même, va tout faire. C'est l'agneau qui combat les forces du mal qui semblent vraiment disproportionnées dans leur nombre, leur puissance, cette puissance matérielle qui les accompagne. Eh bien, le mensonge, c'est l'agneau qui va confondre le mensonge. Aucun habitant de la Terre ne pourra dire que la vérité est là, dans cette Babylone. Ils ne pourront plus y croire, ils ne pourront plus la construire. Et à ce moment-là, c'est la grande victoire de l'agneau.
Grand merci, Père Philippe Play. Voilà, on va écouter tout de suite, c'est Lorena McKenny, Prospero Speech.
Radio Notre-Dame.
I'm
donc nous évoquons ce soir les grandes énigmes de l'Apocalypse. Nous sommes emportés dans un monde grandiose et difficile quand même pour nous, parce qu'on on est vraiment là propulsé dans une dimension cosmique.
Universelle. Oui, cosmique, tout à fait.
Avec le grand combat, le grand drame de l'humanité, finalement, la révolte contre Dieu de l'homme, le non-choix de l'homme.
C'est quelque chose, évidemment, que la vie quotidienne nous cache. Et le rôle, d'ailleurs, des textes de la Révélation, c'est justement de mettre en lumière ces choses qui sont cachées et qu'on ne pourrait pas découvrir vraiment par soi-même.
Cachées derrière les événements, on reste au niveau des
derrière
événements.
Derrière tous les événements, il y a cet enjeu qui est là et qu'il faut connaître.
Alors, on va écouter tout de suite, vous allez mettre votre casque, Père Philippe Play. Voilà, et on va écouter tout de suite, c'est Marie-France qui est en ligne, qui s'appelle de Nogent-le-Rotrou, je crois. Marie-France, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir mon père.
Bonsoir.
Eh bien, c'est une curieuse coïncidence, mais j'étais en train de lire votre livre quand l'émission a commencé.
Ah bah oui, effectivement.
Je vous avais entendu dans une autre émission radiophonique, j'avais commandé le livre que j'ai eu ce matin. Alors, je voulais vous remercier et vous féliciter parce que ce livre est un modèle de pédagogie et de clarté sur un sujet qui n'est pas facile, finalement, mais ça se lit avec une grande aisance, bien que ce soit, au fond, très, très complet, très savant, mais dans la mesure où vous avez suivi le texte et où vous avez divisé en chapitres et chaque chapitre en petites unités, et puis avec une typographie différente pour le texte de l'Apocalypse et le commentaire, on arrive à... J'ai lu 75 pages comme ça, rapidement, finalement. Je relirai, d'ailleurs. Mais tout avec l'envie, d'ailleurs, d'aller fouiller plus loin.
Ah, vous me faites plaisir.
Mais j'ai résisté. Mais c'est vraiment tout à fait passionnant comme lecture. Je voudrais que les gens qui commandent le livre, les gens que le sujet intéresse, ne soient pas effrayés par le sujet. Parce que quand on lit l'Apocalypse et qu'on n'est pas aidé, c'est vraiment un peu déroutant.
Ah, c'est vrai que c'est déroutant.
Voilà, un bon guide.
Et là, on entre dans un commentaire qui, tout en étant très solidement étayé, on sent bien beaucoup de connaissances derrière, mais on n'a pas essayé de faire des esbroufs, on n'a pas essayé de... Non, on enseigne quelque chose. Moi, j'étais professeure, c'est pour ça que ça doit m'enthousiasmer, parce que j'ai trouvé quelqu'un avec qui tout se comprend. Même le grec, pour les gens qui ne le sauraient pas, il y a une traduction phonétique à côté.
Ah bon, oui, normal.
C'est pas fréquent. Il y a beaucoup d'intellectuels vous collent le grec sans rien à côté. La traduction éventuellement, mais pas la transcription phonétique. Non, c'est très très agréable à lire et à relire très certainement, parce qu'il faut relire et relire l'Apocalypse aussi, qui finalement déroute tellement que... On se sent... Non, c'est vraiment passionnant. Je vous remercie infiniment.
Ah bah, je suis très content, parce que le but que je poursuis, c'est d'ouvrir une porte, quoi, pour permettre aux gens d'habiter ce texte.
Oui, mais c'est vrai. Et en plus, sans que vous le disiez, peut-être que vous l'avez fait là, il y a quelques minutes, mais je ne sais pas si dans votre texte, là j'en suis à la page 75, je ne sais pas si vous le faites dans le livre, mais le rapport qu'on peut faire avec notre temps est évident sans que vous l'établissiez. La façon dont vous parlez des qualités ou des défauts des différentes villes, on reconnaît notre monde, même quand vous ne le dites pas.
Ouais, mais le monde est éternel, enfin je veux dire l'homme est éternel, il ne change jamais lui.
Oui, mais dans ce texte allégorique, on a bien du mal à se reconnaître finalement. Alors que là, avec le commentaire... On fait très bien le rapprochement, notamment, moi, il y avait une des villes dont ce qui est condamné, c'est que finalement, ils ont l'air d'être tous très bien, de bien agir, mais tout est à l'horizontale.
Oui,
c'est ça. Et il n'y a rien de vertical. Mais j'ai souvent cette impression-là, actuellement, dans le christianisme d'aujourd'hui. Que même le commentaire qu'on nous fait quelquefois pendant l'homélie, etc., je me dis, mais après tout, si on n'était pas chrétien et juste de braves gens, ce serait la même chose. Et ça me déroute un peu.
Ah bah oui, mais ça, c'est... comment dire, il y a deux aspects, de toute façon, dans notre foi. Un aspect horizontal, c'est l'amour du prochain, mais un aspect vertical.
Et oui, c'est alors, vrai, c'est, moi, si je parle... actuellement, privilégie constamment l'aspect horizontal et l'amour, l'aspect vertical, il est peu fallu. Mais il y a d'autres choses, par exemple, il s'agissait de payer le denier de l'église, c'était pas grand-chose, mais notre curé nous y incitait, ce qui est bien, et saisi d'un remords, il nous dit, mais je veux pas vous faire la morale.
Oui, enfin, oui, c'est bon.
Voilà, c'était sérieux, la morale est devenue un gros mot.
C'était une boutade, peut-être.
Ça ne serait pas une mauvaise idée de faire la morale de temps en temps. Mais non, parce que non, mais parce que le mot de morale est un de ces mots tabous que les médias proscrivent.
Hein? Là, vraiment, la vision de Jean, elle est encore plus grandiose que ça. Hein, ça élève vraiment à toute une dimension bien au-delà. Encore, la morale, c'est encore un niveau, mais là, c'est encore un niveau...
C'est la source de la
c'est
morale.
La source, voilà. Il va à la source, voilà, oui. En tout cas, merci Marie-France, de votre intervention. Merci et bonne soirée. Au revoir. Alors, Père Philippe Blais, j'aimerais qu'on revienne sur, sur les qualités des élus. Alors, des 144 000 élus qui sont les prémices et qui entourent l'agneau et qui motivent peut-être l'agneau, l'intervention de l'agneau aussi.
Ah bah tout à fait. L'agneau est attiré par ceux qui l'accueillent, par ceux qui le désirent, par ceux qui ont besoin de lui et qui ne croient qu'en lui. Et ils n'ont pas besoin d'être parfaits, ceux-là. Ce qu'ils ont besoin, là, c'est Saint Jean nous le dit, je vais vous lire le passage. Ceux-là ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ceux-là suivent l'agneau où qu'il aille. Ceux-là ont été rachetés d'entre les hommes en prémisse pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, on n'a pas rencontré de mensonges, ils sont irréprochables. Donc ces belles qualités sont celles d'une pureté qui n'est pas liée à la construction du monde, voyez. Le Seigneur ne nous demande pas de construire un monde nouveau. Le monde nouveau, lorsqu'il apparaît dans l'Apocalypse, mais il est reçu, il vient d'en haut.
Il est reçu.
Mmh. C'est la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel et qui va, durant ces 1000 ans symboliques, je dirais réguler la vie de la terre, lui donner sa colonne vertébrale constamment, quoi, lui permettre d'aller vers le ciel. Les élus, c'est ça, ils sont les...
Alors si c'est l'agneau qui fait tout, les élus, quel est leur comportement? Alors quelle est leur attitude? Quelle est l'attitude juste?
C'est l'attitude de tous les êtres purs. D'abord, s'abstenir du mal. Donc là, on évoquait à l'instant là les problèmes de morale, et ça c'est vrai, ça passe par là. Donc il faut s'abstenir du mal, il faut pas entrer en communion avec des valeurs qui sont en apparence, même si elles sont en apparence bonnes, qui ne sont pas liées au Seigneur ou qui sont même opposées à lui. Et on a du mal, vous voyez, l'amour est souvent galvaudé et se cache, la déformation de l'amour, le non-amour, elle se cache derrière des images prétendument liées à l'amour. Mais c'est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est une chose qui ravage le monde spirituellement parlant. Ça rend le monde dur comme le fer. Alors ça, c'est quelque chose vraiment à proscrire. Nous, on appelle ça un bien, mais on fait quoi en fait? On confond le niveau psychologique et le niveau spirituel. Donc, au niveau psychologique, l'ego a besoin d'exister, il a besoin d'être structuré, il a besoin d'être fort. On doit pas ne pas s'aimer psychologiquement. Mais on transpose bien cette loi psychologique au domaine de l'âme. Et on imagine l'âme et on vit spirituellement comme si on était au niveau psychologique. Comme si notre âme était notre ego.
Une illusion.
Et que ce serait la perte ou la destruction de la personnalité, ce qui est grave psychologiquement, et bien que ça amènerait les mêmes ravages au niveau spirituel. Mais c'est totalement faux. Les élus, justement, dans le fait de se remettre complètement à Dieu, n'ont pas de frustration, par ces renoncements dans ce qui semble être un bien. Alors, les jouissances sous toutes les formes, alors là, Saint Jean les développe beaucoup, et le monde dans lequel on vit, là, c'est continuel, avec tout, il suffit de regarder les affiches, tout ce que les médias véhiculent, c'est inimaginable. Les gens se sentent frustrés, voire même souffrent de ne pas posséder certains objets matériels au dernier cri, alors que ça ne sert à rien. Ça ne le sert à rien. Mais il y a une illusion qui leur fait croire que sans ces objets, ils ne sont plus rien, ils sont marginalisés. On confond l'ordre psychologique et l'ordre spirituel, surnaturel. Donc les élus, en s'abstenant de ces communions avec les choses mauvaises, et ça c'est les commandements du Seigneur dans l'Évangile qui nous permettent de les connaître, de les reconnaître, se disposent à cette pureté nécessaire qui est celle de l'amour. C'est le deuxième élément. Ils suivent l'agneau partout où il va, voyez. Donc, on commence par s'abstenir de ce qui est mauvais, du mal, et ensuite on va chercher l'agneau, c'est-à-dire on va chercher le bien, on va poursuivre, on va entrer dans la quête du bien, et aussi ce qui inclut la quête de la vérité. Benoît XVI insiste tout le temps sur cette double quête, celle de l'esprit et celle du cœur, la quête de la vérité, la quête du bien, du bon. Et il faut chercher vraiment, il faut suivre l'agneau passionnément. Vous voyez, les chercheurs de Dieu, les saints sont ceux qui n'abandonnent jamais. Ils peuvent être dans la nuit éventuellement, mais cette nuit purificatrice, ils attendent toujours, mais c'est pas une attente passive, c'est une recherche. Ils suivent l'agneau partout où l'agneau passe et où les fait passer. Donc l'agneau.
Ils suivent vraiment ses pas.
C'est très important. Oui. Et donc on doit le faire à travers notre existence, sans rechercher, je dirais, une espèce de grands projets qui nous permettraient de nous dépasser et de devenir des saints, entre guillemets, en construisant un monde nouveau par l'Église, que sais-je. Non, c'est pas ce que l'agneau nous demande. Le monde sera nouveau par la transformation des cœurs, pas par la transformation des structures. Bien sûr, il faut aussi faire des choses matérielles, mais c'est pas premier.
Ça suit,
c'est naturel, ou c'est surnaturel, mais...
C'est sécrété par, justement, cette attitude-là.
Exactement. Et ceux-là sont rachetés d'entre les hommes, en prémisse pour Dieu et pour l'agneau. C'est très beau, ça. Donc, c'est ce qu'on évoquait sur les prémices, ça signifie être entré dans une vie consacrée. C'est le moment où on entre dans l'intimité divine. Saint Jean, dans son évangile, nous présente tout un itinéraire de l'âme vers Dieu à travers un autre septénaire, le septénaire des signes, des miracles, dans les 12 premiers chapitres. Et ce qui définit l'état consacré, c'est le dernier état, c'est l'intimité avec Dieu. Connaître, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et alors, être consacré, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, extraordinaire. Il n'y a pas eu de mensonge dans leur bouche. Ils sont irréprochables ou immaculés. C'est un peu le résultat, si j'ose dire, la conclusion, ce qui ramasse tous les autres,